Bonjour à tous. À la une ce matin, la fracture médiatique s'aggrave. La confiance des Français envers les journalistes est au plus bas. Résultat du dernier baromètre du journal La Croix publié aujourd'hui. On y revient en début de journal. Changement de stratégie chez les Gilets jaunes dont certains s'organisent pour se lancer aux européennes. Ça ne fait pas les affaires du Rassemblement National. Réaction à suivre. La fin de l'ère Ghosn et un nouveau tandem à la tête de Renault. Réunion du conseil d'administration du constructeur ce matin et donc la démission annoncé ce matin de Carlos Ghosn. Dans l'actualité également, le Venezuela au bord d'une nouvelle crise politique avec le président de l'Assemblée qui s'autoproclame président par intérim. Nous irons au Panama voisin où le pape a atterri hier pour les JMJ. Puis enfin, on terminera avec le spectacle vivant le plus mystérieux du moment. C'est à Paris.
Et dans 20 minutes, 7h50, l'invité d'Alexandra Ben Saïd est aujourd'hui le directeur général de Pôle emploi, Jean Bassère.
France Inter.
Jamais, Sébastien, les Français n'ont aussi peu fait confiance aux médias.
Et ce n'est pas la crise des Gilets jaunes qui démentira ce constat. Des journalistes insultés, molestés, protégés par des gardes du corps. Le journal La Croix publie ce matin son baromètre annuel. La crédibilité accordée aux différents supports et aux journalistes est la plus basse enregistrée depuis 32 ans, malgré un intérêt croissant pour l'information. Alexandra Hakoun.
On commence tout de même par une bonne nouvelle. Jamais les Français n'ont eu autant d'appétence pour l'actualité. 67% d'entre eux s'y intéressent. L'effet gilet jaune a forcément joué. L'enquête date de début janvier. Mais leur confiance dans les médias dégringole. À commencer par la télévision, moins 10 points en un an. La crise est bien là. Seuls 38% croient ce qu'ils y entendent. Leur confiance va comme d'habitude en premier à la radio et à la presse écrite, avec un niveau historiquement bas, il faut le noter, pour l'un comme pour l'autre. Paradoxe, quand ils veulent s'informer, c'est vers la télé que les Français se tournent en premier. Oui, oui, le média auquel ils font le moins confiance est en tête des sources d'infos, suivi d'Internet, jugé fiable par seulement un quart des sondés. Sur les journalistes, le regard est sévère. Non, ils ne sont pas indépendants du pouvoir, encore moins de l'argent. Pour les trois quarts des sondés, 25% estiment même justifier l'agressivité envers les journalistes à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes. Pourtant, les Français comptent sur eux pour lutter contre les fake news. Le divorce n'est donc pas complètement consommé.
Alexandra Hakoun, spécialiste média France Inter, le baromètre La Croix complet à retrouver sur franceinter.fr.
7h33, Sébastien, les Gilets jaunes s'interrogent sur leur avenir politique.
Oui, certains d'entre eux ont décidé de s'engager pour les européennes. Lancement officiel hier d'une liste ralliement d'initiatives citoyennes avec à sa tête l'aide-soignante Ingrid Levavasseur, figure de proue du mouvement, mais déjà qualifiée de traître par d'autres Gilets jaunes. Une liste qui par ailleurs risque de faire de l'ombre à d'autres partis politiques. Écoutez la réaction de Gilbert Collard, député du Rassemblement National.
Une liste Gilets jaunes, si elle est vraiment jaune, si elle est authentiquement jaune, même si elle peut faire du tort au Rassemblement National, à Debout la France ou à la France Insoumise, elle est l'expression démocratique d'une candidature. Mais la liste qu'on vient de nous annoncer, qui a quand même pour directeur de campagne Monsieur Saïnian, qui est directeur de campagne et qui a milité au mouvement des jeunesses socialistes pour Hollande, et puis quand on voit que le huitième de liste a milité aux législatives pour En Marche, bon, on est obligé de se dire quand même que cette liste sent un peu le Macron macéré à la sauce combine électorale. Quoi.
Gilbert Collard au téléphone de Frédéric Carbone. Pendant ce temps, Emmanuel Macron poursuit lui son tour de France avec ce midi dans la Drôme un déjeuner avec une soixantaine d'élus de la région, dont un tête-à-tête inédit avec Laurent Wauquiez. Le grand débat comme alpha et oméga à la crise des Gilets jaunes, mais pour quel débouché politique? L'hypothèse d'un référendum couplé avec les élections européennes avait été un temps envisagée à l'Élysée, mais l'idée n'est plus d'actualité. C'est une information France Inter. Le projet d'un vote simultané est enterré, Yael Gauz.
Sur le papier, l'idée était séduisante, portée avant Noël par deux pionniers de La République En Marche, le député Sacha Houlier et le sénateur François Patriat. Quand il était le patron de l'AREM, Christophe Castaner aussi s'était posé la question. Le scrutin européen étant souvent synonyme d'abstention, pourquoi ne pas faire voter les Français deux fois le même jour? Manière aussi de répondre aux Gilets jaunes, pas avec un RIC, mais avec un référendum classique sur les institutions, réformes sans cesse décalées par l'affaire Benalla et maintenant par le grand débat. Fausse bonne idée finalement, car techniquement infaisable dans le délai imparti, 8 mois incompressibles d'après un proche du président. Et puis ce serait ajouté une campagne dans la campagne des européennes qui se télescope elle-même avec le grand débat, avec le risque, dit un ministre, d'éclipser l'enjeu européen et d'organiser le défouloir anti-Macron. Or, ces européennes, le président n'entend pas les brader, il veut faire gagner ses idées et passer en tête devant Marine Le Pen. Exit le référendum ? Non, il reste une option, mais pour plus tard, notamment si le Sénat continue à faire de la résistance.
Yael Gauze, chef du service politique de France Inter. Il ne reste plus grand-chose du texte de Christophe Castaner contre les casseurs, détricoté massivement par les députés de la majorité hier en commission des lois. Exit donc la possibilité pour les préfets d'instaurer un périmètre de sécurité, supprimer également la création d'un fichier des personnes interdites de manifestation. La France dépense un pognon de dingue pour sa protection sociale, comme le disait Emmanuel Macron l'an dernier. La France championne du monde en effet en matière de dépenses sociales. Conclusion hier d'un rapport de l'OCDE qui rassemble les principaux pays développés. L'Hexagone consacre ainsi plus de 31% de son PIB, son PIB, aux retraites, à la famille, à la santé ou l'assurance chômage, loin devant la moyenne des pays de l'OCDE, autour de 20%. L'autre actualité ce matin, c'est la situation politique qui se dégrade au Venezuela. Le jeune président de l'Assemblée nationale, Juan Guaido, s'est autoproclamé président par intérim. Déclaration rejetée par le ministre vénézuélien de la Défense, mais approuvée par une bonne partie des pays du continent américain, les États-Unis en tête, prêts à mettre toutes les options sur la table selon Donald Trump. C'est dans ce contexte que le pape est arrivé, lui, hier, dans un autre pays d'Amérique du Sud, le Panama, qui accueille 200 000 catholiques du monde entier pour les JMJ, les Journées Mondiales de la Jeunesse, un rendez-vous consacré cette année à la crise migratoire dans le monde, et le Panama n'est pas épargné par le phénomène. De nombreux Vénézuéliens, justement, ont choisi de s'y réfugier. Sur place, à Panama City, Mathilde Imberti.
Dans la masse qui chante et qui prie, rien ne distingue Maria du reste des fidèles. Elle pourtant se sent étrangère. Vénézuélienne, 15 ans, un papa menacé de mort dans son pays, toute une vie à construire au Panama.
Mon père pensait retourner au Venezuela une fois la crise résolue, mais la situation empire. Et moi et mon jeune frère n'avons aucun avenir là-bas. C'est difficile au Panama, il y a des choses auxquelles je n'ai pas accès à cause de ma nationalité. Certains concours scolaires par exemple. Et ma famille a du mal à s'intégrer par le travail.
Les récents émigrés au Panama viennent du Venezuela surtout, mais aussi de Colombie ou du Nicaragua comme Saúl, opposant politique chez lui. Cette vague migratoire sans précédent rend les Panaméens plus méfiants, constate ce jeune homme tout juste majeur.
Ils disent que les migrants volent le travail des Panaméens. En fait, on prend le travail que les locaux ne veulent pas occuper. Moi, je garde des chiens pour 20$ la journée.
Tous ces jeunes migrants attendent du pape François des paroles réconfortantes pour eux, sans concession pour les puissants. Panama City, Mathilde Imberti, France Inter.
Et pendant que les Vénézuéliens se déchirent entre deux présidents, les Congolais, eux, vont connaître leur première transition pacifique, bien que contestée par l'opposition. Félix Tshisekedi va prêter serment aujourd'hui pour tourner la page du règne des Kabila.
Il est 7h38, c'est une première en France, Sébastien. Un tribunal reconnaît l'électrosensibilité comme maladie professionnelle.
Un pas de plus, en effet, dans la reconnaissance de ces symptômes. En mars dernier, l'Agence de sécurité sanitaire considérait la souffrance des électrosensibles comme réelle. En octobre dernier, un tribunal a reconnu que le malaise d'un salarié électrosensible de France Télécom était un accident du travail. Et cette fois, un autre tribunal, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, vient de classer en maladie professionnelle l'électrosensibilité d'un fonctionnaire. Véronique Julia.
Le fonctionnaire en question est un technicien employé dans un organisme de recherche. Il travaillait dans un laboratoire de chimie à proximité d'un spectromètre de masse, un appareil pour analyser la matière. Maux de tête, fatigue, courbatures, problèmes aux yeux, les premiers symptômes d'électro-hypersensibilité se seraient manifestés sur son lieu de travail quelques mois après sa prise de fonction. Il n'avait pas d'antécédents médicaux. Dans ses conclusions, le tribunal, qui a fait appel à plusieurs experts, reconnaît l'absence de consensus médical sur le lien de causalité entre la santé du fonctionnaire et son exposition aux champs magnétiques. Mais l'exposition s'étant prolongée et l'état du technicien s'étant réellement dégradé, il a donc tranché pour la maladie professionnelle, l'avocat du plaignant, maître François Laforgue.
L'organisme de recherche soutenait que l'exposition était inférieure aux normes. Le tribunal écarte cet argument. C'est vraiment très intéressant parce que le tribunal va nous dire, il a été exposé, il a bien développé cette maladie, il n'y a pas d'autres facteurs de risque, de facteurs génétiques ou autres qui préexisteraient. Et donc, du coup, on doit retenir le lien.
Fort de cette décision, l'avocat a bon espoir pour les autres recours qu'il défend, une dizaine de cas, notamment des employés de musées qui travaillent sur des tablettes numériques, des commerciaux qui ont abusé du téléphone portable, des informaticiens, des salariés aussi qui travaillent près d'une antenne ou sous des lignes à haute tension.
Véronique Julia, spécialiste santé à France Inter.
Et on termine avec l'événement artistique dont tout le monde parle, le mystérieux projet DAO.
C'est ce qu'on appelle du théâtre immersif, autrement dit un spectacle vivant dans lequel chaque spectateur vit une expérience interactive à part et donc unique. Là, les spectateurs seront plongés dans l'ambiance de l'Union soviétique des années 30 à 60, avec autour d'eux des films, des performances, autour de la question du totalitarisme. L'idée vient d'un cinéaste russe, Ilya Ranovski, génial pour les uns, totalement fou pour les autres, financé par d'étranges mécènes. Isabelle Pasqui en a eu juste un léger avant-goût.
Ça aurait dû rester un pur délire dans la tête d'un cinéaste mégalo, mais c'est devenu une création complètement démesurée. En 2009, le cinéaste Ilya Ranovski a construit en Ukraine un institut de recherche qu'il a replongé dans l'Union soviétique avec des vrais prix Nobel, des religieux, des artistes, Romeo Castellucci, Brian Eno, Massive Attack et même d'anciens vrais dirigeants du KGB. En tout, 10 000 participants complètement coupés du monde dans ce microcosme totalitaire. Résultat, 13 longs métrages que l'on peut voir si on tente l'aventure DAO. Première étape, on achète un visa.
Est-ce que vous avez été tamponné, s'il vous plaît ?
Au début, on déambule dans des pièces relookées bolcheviques. Le buste de Marx à côté d'un cœur tranché dans du plexiglas. Plus loin, autre ambiance, un mini-ciné porno avec fouet et menottes. Mais au centre du parcours, des films où la violence n'est pas elliptique. Martine d'Ange-le-Jean-Châtillon, productrice exécutive.
Ce qu'on fait passer à travers ça, c'est la vie. Et on voit le comportement humain quand il est soumis à des règles totalitaires, qu'il soit beau ou pas beau.
Alors farce mégalo ou délire génial, l'oligarque russe Sergueï Adoniev a déjà donné plusieurs dizaines de millions d'euros pour ce projet.
Voilà, DAO, c'est jusqu'au 17 février au Théâtre de la Ville du Châtelet au centre Georges Pompidou avec des visites de 6 heures ou des visas illimités.
Merci Sébastien Legénie. Nouveau point route, Caroline Pommès, avec deux accidents dans le Nord.
Oui, sur l'autoroute A16 où la circulation est délicate selon Bison Futé. Il y a quelques flocons en ce moment entre Dunkerque et Calais. Un carambolage donc entre 6 voitures à hauteur de Saint-Georges-sur-Lap, puis une voiture seule qui a fait une sortie de route vers Bourbourg. Soyez vigilants, surtout au verglas. Les températures sont négatives sur une majeure partie de la France. Et puis, rien à voir avec la neige, mais un bouchon de 6 km sur l'A64 en arrivant sur Toulouse à cause d'un accident.